Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le froid pour entendre parler de Hans Kelsen, qui est un auteur qui n'est pas réputé, disons, pour être drôle. Donc, c'est d'autant plus méritoire de votre part. Alors, personnellement, je n'ai entendu parler de cet auteur, de Kelsen, donc, qu'à la faveur du commencement de mes études de droit. C'était à Aix-en-Provence, n'est-ce pas, il y a un certain nombre d'années. Et j'ai pu remarquer l'omniprésence de cet auteur, notamment, en cours d'introduction au droit, première année. C'était même assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un préambule philosophique pour asseoir, disons, l'autonomie du droit, etc. Et puis, Kelsen faisait toujours partie, disons, de cette présentation. C'était un passage au fond obligé. On nous parlait donc de la théorie pure du droit, sans vraiment d'ailleurs nous demander d'aller lire le texte lui-même. Et ensuite, on fermait donc ce préambule et on ouvrait les différents codes, code de commerce, code de procédure civile ou code civil tout court. Et il était désormais, nous nous attachions, disons, plutôt à, l'étude du droit positif. Donc effectivement, pourquoi cette présence envahissante de Kelsen dans les études de droit en France, en tout cas, c'est une question qui me paraît légitime. La réponse, elle est plus difficile. Elle demande, je crois, un véritable effort pour d'abord saisir quelques aspects saillants de cette pensée. Mais je crois qu'en fait, le jeu en vaut la chandelle parce que la pensée juridique et politique de Kelsen est suffisamment profonde pour qu'elle puisse, me semble-t-il, nous révéler quelques traits essentiels et peut-être même vertigineux de nos sociétés et des problématiques qui les traversent. Alors j'aimerais donc procéder en deux grands temps, disons. D'abord, j'aimerais exposer la théorie pure du droit, donc la pensée juridique de Kelsen. Et puis petit à petit, je ferai des petits pas de côté pour critiquer certains de ces aspects. Donc d'abord, si vous voulez, donc la théorie pure du droit. Et puis ensuite, j'aborderai un deuxième pan de la pensée de Kelsen qui est peut-être moins connu encore, et il s'agit de sa pensée politique, notamment à travers un ouvrage qui a été réédité il n'y a pas tellement longtemps chez Dalloz, La démocratie, sa nature, sa valeur, qui est un ouvrage effectivement tout à fait intéressant. Donc commençons par la théorie pure du droit. Elle est publiée en 1934, mais Kelsen y travaille tout au long des années 20. Il s'agit pour lui, au fond, de répondre à une question scientifique, assez simple finalement: comment reconnaît-on le droit? Comment pouvons-nous dire, au fond, avec certitude, la certitude d'une connaissance positive, là, nous avons affaire à du droit, à une règle de droit et pas à autre chose? C'est en répondant à cette question qu'une science du droit pure, véritablement donc purifiée, pourra être fondée, qu'une science du droit sera scientifiquement légitime, si vous voulez. C'est une des raisons essentielles, me semble-t-il, du succès de cet auteur difficile en faculté de droit, que de permettre d'assurer, au fond, l'autonomie et la consistance intellectuelle, et puis peut-être aussi institutionnelle, de la science du droit. L'usage de cette référence philosophique permet, en effet, d'asseoir, finalement avec autorité, puisqu'il ne s'agit pas de lire le livre en lui-même, hein, mais avec autorité, le sérieux de la démarche que les étudiants de première année s'apprêtent à mener. Ainsi, pour que la science du droit soit fondée, il faut, nous dit Kelsen, il faut en passer par une théorie du droit qui soit pure. Il s'agit au fond d'isoler le droit de tout ce qui n'est pas lui. Or, jusqu'ici, ce n'est pas le cas, pense Kelsen. La compréhension du droit est impure, elle est grevée de dimensions morales, politiques, métaphysiques, bref, idéologiques, qui ne lui appartiennent pourtant pas, de droit, j'allais dire, et qui empêchent donc de le connaître dans son essence nue. Donc il s'agit, dans ce projet kelsenien, d'isoler conceptuellement, théoriquement, le droit pour en assurer la compréhension véritable, scientifique et j'allais dire aussi dépassionnée, peut-être même désenchantée. On peut dire donc que la théorie pure du droit cherche à abstraire le droit de son enchâssement politico-idéologique qui obscurcit sa nature. Je cite Kelsen, « La théorie pure du droit cherche à délimiter clairement son objet des deux côtés par où son autonomie est menacée par le syncrétisme des méthodes régnantes. » Alors, s'il y a deux côtés, eh bien, il nous faut les analyser. Le premier temps de cette première partie donc juridique de la pensée de Kelsen sera attaché à la distinction entre le droit et la nature. Et puis le deuxième temps cherchera à distinguer le droit de la morale. Et si on arrive à distinguer donc droit et nature et droit et morale de l'autre, on aura donc isolé l'objet de la science du droit, ainsi fondée et purifiée. Donc d'abord, droit et nature. Il nous faut, dit Kelsen très, très, très nettement, il nous faut séparer de la façon la plus nette le droit de la nature. Or, cette distinction, nous dit-il, n'est pas facile, elle n'est pas aisée. Pourquoi ? Ben, en effet, lorsque vous observez une décision, par exemple, d'un parlement, ou une décision judiciaire, ou un délit, ou un acte juridique privé, par exemple un contrat, vous aurez toujours devant vous des faits. Des faits qui, par définition, si l'on peut dire, je cite ici Kelsen, font toujours partie de la réalité naturelle. Qu'entend-il par réalité naturelle ? Eh bien, ces faits se déroulent dans l'espace et dans le temps. Ils sont donc perceptibles par les sens et sont donc, ajoute notre auteur, comme tel, déterminés par la loi de causalité qui régit tous les phénomènes naturels. Et donc, en ce sens, ces différentes décisions, ces différents actes juridiques tombent sous la juridiction des sciences de la nature. À la limite, on peut les observer en physicien, en psychologue, en sociologue, bref, en, scientifique de la nature. Comment dès lors assurer la spécificité de la science du droit par rapport aux sciences de la nature ? Tel est le problème que Kelsen se pose. Alors, il y répond en disant que poser le problème de cette façon, ce serait à oublier une dimension absolument irréductible des actes juridiques qui échappent totalement aux sciences de la nature et à leurs méthodes. De quoi parle-t-il ? Ici, il faut introduire une distinction fondamentale entre nature et norme, que Kelsen d'ailleurs exprime la plupart du temps à travers la distinction entre sein, être, et sollen, devoir être. Par ce principe, nous pourrons assurer, si vous voulez, l'objet juridique par distance des réalités naturelles que nous pouvons étudier par les sciences de la nature. Prenons un exemple. Un homme se débrouille pour opérer le transfert d'un portefeuille de la poche d'une personne vers la sienne. Ça, c'est factuel. Ce sont des faits, du sein, de l'être, connaissables par les sciences de la nature. À la limite, un physicien pourrait se pencher sur ce phénomène, un psychologue, un sociologue, peut-être même un généticien, qui sait. Mais ce fait se rapporte à une norme juridique qui nous permet de qualifier le phénomène naturel dont je viens de parler, transfert de portefeuille, de délit, voire plus précisément de vol. Et va lui attacher à ce fait une peine qui devra être prononcée, qui doit être prononcée. Ainsi, par la vertu de la norme qui édicte un devoir-être, un sollen, le sollen en question, ça pourrait être le vol ne doit pas être ou il doit être puni par une peine de temps, d'accord ? Un devoir-être est attaché donc à ce sein qu'est le transfert du portefeuille d'une poche à une autre. Voilà. Et c'est par là que nous pouvons distinguer ce qu'est une norme de ce qu'est simplement un fait que nous pouvons étudier par les sciences de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une norme donc ? Ce qui en fait nous dit qu'elles aiment des actes juridiques, ce n'est pas leur réalité naturelle, leur existence causalement déterminée, incluse donc dans le système de la nature. Mais alors qu'est-ce donc ? Eh bien, il répond, c'est le sens objectif qui s'attache à eux. Ou à elles, ces normes, c'est-à-dire leur signification. Et donc on a ici une chose, j'allais dire, incorporelle, un énoncé qu'il s'agit d'étudier comme tel. Le fait donc n'implique aucunement en lui-même la conséquence juridique qui provient de la seule norme. On pourrait à la limite envisager plusieurs normes. Peut-être qu'il y a des États dans lesquels le transfert de portefeuille d'une poche à la sienne n'est pas puni par une peine. Pourquoi pas ? Tout dépend de la norme. Donc, le fait n'implique aucunement en lui-même la conséquence juridique qui provient de la seule norme qui ordonne, qui commande, mais aussi qui permet, qui habilite et qui bénéficie d'une existence, donc d'un autre ordre que la seule nature. C'est un contenu objectif, donc la norme, un contenu objectif de pensée, en quelque sorte commandant un devoir-être. Kelsen résume cette différence essentielle de la façon suivante, en disant « on a des lois naturelles, on a des lois juridiques. Quelle est la différence entre les deux ? La loi naturelle dit « si un phénomène A se produit, un phénomène B nécessairement se produira ». Une casserole d'eau chaude sur une source de chaleur, nécessairement, l'eau finira par bouillir. Là, nous avons affaire à une loi naturelle. En revanche, dans le cas de la loi juridique, on nous dit plutôt, si un fait A se produit, le transfert de portefeuille, un fait B doit, en vertu d'une norme, se produire, une peine. Sans que ceci, d'ailleurs, ajoute Kelsen, très opportunément, mais on le verra par la suite, sans que ceci indique rien sur la valeur morale ou politique de cette connexion. Le scientifique du droit n'a qu'à connaître cette connexion, il n'a pas à l'évaluer. Il n'a pas à porter, donc, de jugement de valeur. Pourtant, ici, Kelsen est aussi clair qu'énigmatique. Parce que lorsque dans la théorie pure du droit, donc dès les premières pages de cet ouvrage, en l'occurrence page 7-8, donc dans la traduction française évidemment, enfin je dis évidemment mais bon, il affirme, je cite, « la différence entre sein et sollen, être et devoir être, ne peut pas être expliquée davantage ». C'est bien dommage, mais c'est pas possible. « Elle est donnée à notre conscience, nous dit-il, de façon immédiate ». Donc nous avons affaire ici à un principe. Personne ne peut nier que ceci ou cela est, c'est l'assertion qui décrit un fait positif, là on est dans les sciences naturelles, c'est du sein, est essentiellement différent de la proposition que quelque chose doit être. C'est l'assertion qui décrit une norme. Mais Kelsen ajoute aussitôt ce point crucial dans la lutte contre les doctrines du droit naturel, je cite, « et personne ne peut nier que du fait » c'est-à-dire du sein, de la nature, du fait que quelque chose est, il ne peut pas suivre que quelque chose doive être. C'est-à-dire que les deux règnes entre le sein et le sollen sont rigoureusement étanches. Il y a une séparation nette entre les deux. Ceci assure d'ailleurs l'autonomie radicale de l'ordre normatif par rapport à l'ordre naturel, puisque les deux sont précisément donc étanches, leur relation étant toujours extrinsèque l'un à l'autre. On voit déjà par là, et c'est un point important, à quel point la notion même de droit naturel est absurde aux yeux de Kelsen, parce qu'elle associe le droit qui est de l'ordre de la norme et le naturel qui est précisément de l'ordre du fait. Entre les deux, il n'y a pas de passage possible. Donc en fait, l'expression de droit naturel est une contradiction dans les termes. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs aussi de la présence, de l'omniprésence de cet auteur en début. En faculté de droit, enfin, on peut s'interroger. Kelsen donnera une de ses sources intellectuelles dans un ouvrage plus tardif, en l'occurrence un ouvrage posthume qui s'intitule donc La théorie générale des normes, qu'on trouve dans la collection Léviathan. Et qui trouvons-nous ? On pourrait s'attendre à Kant, parce que souvent on dit que Kelsen est héritier de la pensée de Kant. C'est pas faux, mais l'auteur qu'il cite, c'est Hume. Et en effet, il cite un passage très intéressant du Traité de la nature humaine, livre 3, partie 1, chapitre 1. Vous avez le texte sous les yeux dans le fascicule qu'on vous a distribué. C'est le texte 1. C'est assez impressionnant parce que, à la fin d'un développement, Hume, dans le style inimitable qui est le sien, nous fait part, à nous lecteurs, d'une réflexion qu'il s'est faite, etc. On dirait qu'à travers les siècles, il parle directement à Kelsen. Kelsen a recueilli cet enseignement, ces quelques lignes, et je dirais que c'est vraiment le principe de tout son système, si vous voulez. Voilà ce que dit Hume. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter à ces raisonnements, donc ce qui précède, une remarque qui peut-être sera trouvée de quelque importance, peut-être. Dans tous les systèmes de morale que j'ai rencontrés jusqu'alors, j'ai toujours remarqué que les auteurs, pendant un certain temps, procèdent selon la façon habituelle de raisonner et établissent, par exemple, l'existence de Dieu ou font des observations sur les affaires humaines. Puis, soudain, je suis surpris de voir qu'au lieu des habituelles copules « est » et « n'est pas », je ne rencontre que des propositions reliées par « doit » ou « ne doit pas ». Ce changement est imperceptible, mais néanmoins de la première importance, nous dit Hume. En effet, comme ce « doit » ou « ne doit pas » exprime une nouvelle relation ou affirmation, il est nécessaire qu'on la remarque et qu'on l'explique. En même temps, il faut bien expliquer comment cette nouvelle relation, donc du devoir, peut être déduite des autres, donc de l'être, qui en sont entièrement différentes, car cela semble totalement inconcevable. Comment fait-on pour passer de l'être au devoir-être ? Hume dit qu'il ne comprend pas. Mais, comme les auteurs n'usent pas habituellement de cette précaution, c'est-à-dire en fait ils n'expliquent pas le passage, je me permettrai de la recommander au lecteur, et là on dirait que Kelsen, on voit Kelsen lire le texte, si vous voulez, je me permettrai de la recommander au lecteur, et je suis persuadé que cette petite attention renversera tous les systèmes courants de morale. Point final. Et je dirais que là, Kelsen, je dirais, je ne sais pas quand est-ce qu'il a découvert ce texte, mais je pense que c'est un point capital de son itinéraire. Alors là, je me permets de faire un petit pas de côté pour discuter rapidement ce dualisme, qu'on pourrait appeler ce dualisme entre le Sein et le Sollen. En effet, que dirait un partisan du droit naturel ? Je me réfère ici, je prends un exemple, il s'agit d'Alain Sérieux, ses petits bouquins, etc., mais qu'on ne trouve plus, puisque maintenant c'est un autre auteur qui est, à l'origine du droit naturel au PUF, actuellement. Donc là, c'est Alain Sérieux, que sais-je, le droit naturel. Bon. Là, à ce niveau-là, si vous voulez, le problème n'est pas tant la représentation qu'on se donne du droit, plutôt que celle de la nature. En effet, Kelsen le dit clairement, il joue d'ailleurs carte sur table, il joue toujours carte sur table, de ce point-là, il est très intéressant. Il nous dit donc dans la théorie pure du droit, pour la science, la nature est un système d'éléments régis par la légalité causale. Bon, le partisan du droit naturel pourra dire, bon, là je ne discute pas, cette formule, elle est juste. Le problème c'est le pour la science. Est-ce que par là, nous avons épuisé ce que la notion de nature a à nous livrer ? Bon, un homme comme Sérieux, par exemple, ne le pense pas. Effectivement, si vous réduisez par méthode scientifique la nature à une collection de faits bruts, exposés à l'observation quantitative des instruments de mesure qui s'y rapportent, de fait, cette nature, ainsi comprise, ne révélera strictement rien de ce qui doit être. Ça, c'est vrai. Bon. Mais la question est de savoir si cette méthode scientifique ne nous rend précisément pas aveugles à certaines dimensions de la nature. En l'occurrence, aux yeux d'un partisan du droit naturel, on dira au fond que cette méthodologie nous rend aveugle à une dimension essentielle de la nature, qui est sa finalité. La finalité est donc exclue par nature de la méthode des sciences naturelles. Donc il n'est pas, étonnant que, procédant de cette façon, on trouve une nature, j'allais dire, muette quant aux manières de se comporter, c'est-à-dire quant aux fins. Bien. Alors, disons que la plupart des partisans du jus naturalisme se mettent d'accord pour accepter la formule d'Aristote que je vous donne, elle est tirée donc de Politique, premier livre, chapitre 2. La nature, dit Aristote, d'une chose est sa fin. Puisque ce qu'est chaque chose une fois qu'elle a atteint son plein développement, nous disons que c'est là la nature de la chose. Autrement dit, un stylo qui n'a plus d'encre n'est pas véritablement un stylo. Pour connaître effectivement ce qu'est un stylo, il faut que je comprenne quelle est sa finalité. Autrement dit, la finalité me permet de connaître la nature du stylo en question. Bon. Évidemment, pour les objets artificiels, ça ne pose pas tellement de problèmes, puisque là, on a quelqu'un qui est à l'origine de la fabrication de l'objet en question. Mais aux yeux des partisans du droit naturel, ceci est valable non seulement pour les objets fabriqués, mais également pour les objets naturels, c'est-à-dire pour les objets ou les êtres que l'homme n'a pas fait, y compris d'ailleurs lui-même, puisqu'il ne s'est pas fait, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, je suis rapide sur ce point, mais par exemple, s'agissant des choses animées, des réalités vivantes, Sériot dit, là, il entonne un refrain que tous les partisans du droit naturel prennent à un moment donné ou à un autre, « Dans la graine, le biologiste discerne déjà la plante épanouie. » Et finalement, donc, le jardinier va, en considérant la nature de la plante, va, comment dire par là, devoir s'occuper de telle ou telle manière de la graine. Donc là, pour le coup, le devoir être du jardinier découle de l'être de ce qu'est la nature de la plante en question. Donc il y a bien ici une jonction entre les deux. S'agissant de l'homme, par exemple, Sériot nous dit, dans sa double composante matérielle et spirituelle, enfin composante pas très beau, ça me bon, il tend vers une fin qui est sa propre perfection, à la fois physique, donc physiologique, l'âge adulte, bon, et morale, ce qu'il appelle l'épanouissement de toutes ses facultés intellectives et volitives. L'éthique à Nicomaque, d'Aristote donc, n'est rien d'autre qu'un essai remarquable de réponse à cette question. À quelles conditions l'homme deviendra-t-il pleinement homme sur un plan moral? De la détermination donc de ce qu'est l'homme, de sa nature, dans sa plénitude, découleront des indications sur ce qu'il doit être et sur ce qu'il doit faire s'il veut réaliser son humanité. Alors, appliquée à la cité, cette question n'est autre, nous dit Sériot, que celle du droit naturel. À quelles conditions une société d'hommes peut-elle devenir une société pleinement achevée, c'est-à-dire une société digne de ce nom? Bref, il s'agit en quelque sorte de faire passer la société de la puissance, de l'être en puissance, à l'être en acte. Parce que, au fond, on pourrait résumer les choses ainsi, parce que nature oblige. La nature m'oblige. Voilà. Donc c'est précisément ce que Kelsen refuse. Alors je reviens à Kelsen. Distinction, c'est pour ça que je demande un petit peu de gymnastique intellectuelle, mais là je reviens donc à Kelsen. Il écrit contre, je dirais, ce type d'argument. Non, le sein est d'un côté, le sollen de l'autre. L'être est d'un côté, le devoir être de l'autre. Et tous les passages de l'un à l'autre ne sont que des passages idéologiques. Alors revenons à notre exemple. La séparation radicale est, une norme qui me permet de qualifier le transfert d'un portefeuille d'une poche à une autre de vol. Bien. Alors, objection, d'où vient cette norme? Cette norme juridique n'a-t-elle pas elle-même été posée, voulue? Et là, pour le coup, si elle a été posée et voulue, par exemple, par un parlement, ça veut donc dire que ceci prend place dans... la nature. Et, ces chaînes de causalité, cause et effet, qu'à la limite, les sciences de la nature pourraient observer. Effectivement, dit Kelsen. Mais cet acte, donc, doit nécessairement recevoir sa signification d'une autre norme. C'est-à-dire qu'il a fallu une norme pour pouvoir qualifier le transfert de portefeuille de délit. Mais cette norme elle-même, qui a été à un moment donné édictée par le Parlement, il faut qu'elle ait pu être elle-même qualifiée de norme juridique en se rapportant à une autre norme, supérieure, qui permette de dire que quand un Parlement fait ceci et cela, ce n'est pas simplement factuel, mais c'est juridiquement valide. Très bien. Mais cette norme supérieure, il a fallu également la poser. Et nous entrons dans une régression à l'infini. C'est là où on voit d'ailleurs que Kelsen peut, ne pas ostraciser complètement de sa pensée Aristote, puisque c'est un concept, pour le coup, fondamentalement aristotélicien. Comment se sortir, donc, de cette régression à l'infini? Puisque seule une norme peut assurer la validité d'une autre norme. Puisqu'il n'y a pas de passage entre le sein et le sollen, pas de passage entre l'être et le devoir-être, puisque les normes sont du domaine du devoir-être, il faut que, dans le cadre et dans le domaine du devoir-être, il faut que des normes soient capables de fonder les normes inférieures. Il faut que des normes supérieures soient capables de fonder des normes inférieures. Mais il faut bien s'arrêter quelque part. C'est là que nous devons et que nous rencontrons la fameuse norme fondamentale. Quand j'étais étudiant, on nous en parlait de cette norme fondamentale en nous disant qu'en réalité c'était la Constitution. La Constitution, par exemple, du pays. La France, etc. Bon, évidemment, C'est pas possible, puisque la Constitution est un acte factuel et il faut justement qu'une autre norme rende compte juridiquement de la validité de l'acte constituant. Évidemment, ça ne peut pas être ça. Alors, Kelsen répond très nettement à ce problème, d'une façon assez audacieuse. Vous avez cela, donc, c'est le deuxième texte, texte 2A, qui est tiré donc de la théorie pure du droit, page 257. Il est impossible, nous dit Kelsen, que la quête du fondement de la validité d'une norme se poursuive à l'infini, comme la quête donc de la cause d'un effet. Elle doit nécessairement prendre fin, nécessairement, c'est une nécessité logique, avec une norme que l'on supposera dernière et suprême. En tant que norme suprême, il est impossible que cette norme soit posée. Ben sinon, on se retrouve dans le domaine du Sein. Et il faut encore rendre compte de la validité de ce qui est posé. Ça ne marche pas. Elle ne pourrait être posée que par une autorité qui devrait tirer sa compétence d'une norme supérieure. Et elle cesserait donc d'apparaître comme suprême. C'est une contradiction. La norme suprême ne peut donc être que supposée. Sa validité ne peut plus être déduite d'une norme supérieure. Le fondement de sa validité, ajoute Kelsen, ne peut plus faire l'objet d'une question. Bon. Donc là aussi, si la distinction entre Sollen et Sein ne doit pas être questionnée, là non plus. Nous devons accepter cette première norme, non pas en tant qu'elle est posée par quelqu'un ou par une autorité, mais en tant qu'elle est supposée logiquement pour rendre compte justement de la pyramide et de la hiérarchie des normes que nous pouvons étudier et que le scientifique du droit, si l'on peut dire, doit exposer. Nous appellerons semblable norme une norme supposée suprême, la norme fondamentale. Donc l'exemple qu'il prend, par exemple, juste après ce développement, c'est que vous avez une peine de mort, par exemple, qui est prononcée. C'est un exemple. Ça fait référence à un code pénal qui valide justement la prononciation de la peine de mort. Mais le code pénal, lui, s'adosse sur la validité de la norme supérieure qu'est la Constitution. Mais la Constitution, elle, s'adosse sur la valeur de la norme supérieure qu'est la Constitution qui est plus ancienne que celle de, mettons, 1958, même si la peine de mort, elle a été abolie après. Et puis, cette Constitution plus ancienne, elle s'adosse nécessairement sur la Constitution qu'il appelle historiquement première, la première. Mais la première, il faut bien qu'elle s'adosse sur quelque chose, et là, nous retrouvons la norme fondamentale qui n'est que supposée. Et quand il convient de se demander, mais alors quel peut être le contenu de cette norme supposée ? Évidemment, et là c'est très beau, j'allais dire, de la part de Kelsen, c'est qu'il envisage un contenu sans contenu. C'est-à-dire que le contenu, quand il s'agit de l'énoncer, là je cite Kelsen, il dit, elle pourrait s'énoncer à la limite comme cela, on doit se conduire comme la Constitution le prévoit. En fait, il faudrait dire comme la première constitution historique le prévoit, puis ensuite l'enchaînement parvient jusqu'à l'acte juridique qui est le plus proche de nous. Voilà. On doit se conduire comme la Constitution le prévoit. Donc nous avons ici une norme dont le contenu est purement procédural. Donc il y a une sorte de tentative, si l'on peut dire, de réduire la substance du droit à une procédure légitimée logiquement et normativement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette théorie a fait débat. Plus que ça, d'ailleurs, il y a toute une littérature juridique qui s'interroge sur le statut de cette norme fondamentale. Surtout que, dans son ouvrage posthume, encore une fois, Kelsen reconnaît qu'il ne s'agit plus, à ses yeux, d'une hypothèse, mais d'une fiction. Alors là, ça commence à être un peu étrange. Et là, j'ai repéré, par exemple, c'est le texte 2B, un certain Constantin, donc Stamatis, qui commente ce passage donc de l'hypothèse à la pure fiction. Il le dit de cette façon: si cette norme, de l'aveu sincère de Kelsen, n'est susceptible d'aucune vérification scientifique, alors il paraît complètement légitime d'affirmer qu'il est épistémologiquement impossible que la science juridique trouve le fondement du droit dans la prétendue norme fondamentale de la théorie pure du droit. Cette idée risque alors de se dégrader à un article de foi métaphysique. Voilà, vraiment, c'est le pire qu'on puisse imaginer du point de vue de Kelsen. Bon, qu'est-ce à dire ? Si la coupure entre le Sein et le Sollen est posée comme un principe, le Sollen, si vous voulez, donc le devoir être, doit boucler sur lui-même, nécessairement à distance du Sein. Et Kelsen reconnaît ultimement d'ailleurs l'impossibilité d'y parvenir, alors qu'il s'y était engagé pour éviter l'impasse d'une fondation du droit sur la nature, la tradition, la métaphysique, bref, l'idéologie. Bon, je laisse donc cette parenthèse, mais qui est quand même assez massive. Bon, sauf cette difficulté, que certains jugeront comme une impasse, bon, le résultat est quand même le suivant. Ce sont ces normes que doit connaître la science du droit. Et elle doit le connaître d'une façon axiologiquement neutre, comme le dirait donc le maître de Gelsen, c'est-à-dire Max Weber. Pas de jugement de valeur, pas d'idéologie. Voilà, le droit est distingué de la nature. Mais il faut distinguer désormais, et c'est le deuxième point de sa philosophie juridique, le droit et la morale. En effet, la morale est elle aussi, si vous voulez, donc une science, si l'on peut dire, normative. Elle navigue dans le devoir-être. Donc la question est de savoir comment distinguer le devoir-être juridique du devoir-être moral. Alors là, la distinction est très nette, c'est la contrainte qui fait office de distinction. Dans le cas de la morale, il y a bien une contrainte, mais elle se réduit, si vous voulez, à l'approbation et à la désapprobation de la société dans laquelle on vit. Voilà. Dans le cas du droit, il y a le possible recours, je cite Kelsen, à la force physique. C'est le critère. Force physique dont l'État d'ailleurs détient le monopole légitime, pour reprendre encore une formule de Max Weber. Au fond, là on trouve également Hobbes, c'est-à-dire que la loi sans le glaive, ce ne sont que des paroles vaines, n'est-ce pas ? Donc oui, ça c'est un premier point. Ça nous permet d'ailleurs de distinguer la morale, là, ici, très clairement, du droit. Mais ce qui intéresse essentiellement Kelsen dans cette affaire, et le problème que la morale, revêt à ses yeux, c'est que la morale, revendique une prétention absolue qui finit par contaminer le droit à travers la notion de justice. Voilà. Il est clair que, si vous voulez, aux yeux de Kelsen, la plupart des juristes de son temps ne mettent pas en question le fait que la morale soit une valeur absolue. On pourrait se demander si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais disons que c'est contre cela qu'il lutte au moment où il écrit. Parce que pour lui, ce qui est dommageable, c'est que par la morale jugée comme une valeur absolue, on contamine le droit et on finit par le sacraliser. Au fond, quand je parlais tout à l'heure de vision désenchantée du droit, je crois que c'est vraiment un point très, un point très, très important, mais qui touche encore Max Weber. Mais un point très important de la manière d'envisager le droit. Kelsen est catégorique ici. Le contenu de cette supposée justice, c'est-à-dire la morale ici, en tant que valeur absolue, ne peut pas être déterminé par la théorie pure du droit. Bon. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas, son office propre. Elle ne se demande pas comment le droit doit être ou être fait. Elle ne se contente que de le décrire. Bon. Mais ici, nous retrouvons donc cette tentative de délimitation. Et on pourrait se dire, on pourrait s'arrêter là. Distinction de la morale d'un côté, du droit de l'autre, nous ne devons pas contaminer le droit par la morale. Très bien. Simplement, Kelsen ajoute, et c'est le texte 3a, bien plus. L'histoire de l'esprit humain le prouve, qui travaille depuis des siècles à résoudre ce problème, il ne peut en aucune manière être déterminé par le moyen d'une connaissance rationnelle. C'est-à-dire que le contenu de cette justice, de cette valeur absolue revendiquée par la morale, ne peut pas être déterminé rationnellement. Ça, c'est assez étonnant. Il aurait pu se contenter de dire, le droit c'est ça, la morale c'est ça, nous on se préoccupe du droit, terminé. Non, il va sur le terrain de la morale en disant que rationnellement, on ne peut pas déterminer de valeur absolue. Alors, pour le comprendre, il va falloir aborder dans un deuxième grand temps la philosophie politique, parce que là, la philosophie politique de Kelsen nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que Kelsen s'engage sur ce terrain philosophique. Bon. Mais je termine juste avant cette affaire en disant que, de toute façon, aux yeux de Kelsen, comme il le dit lui-même, dans la réalité, il n'y a, je cite, que des intérêts et par suite des conflits d'intérêts qui sont résolus par un règlement d'intérêts. Terminé. Donc en fait, à ses yeux, une société c'est d'abord un conflit d'intérêts qu'il s'agit de canaliser par des normes juridiques, point terminé. Et puis ensuite, il le dit lui-même, la justice comme idéal moral est un idéal irrationnel. Irrationnel, c'est-à-dire qu'il est en dehors du champ de la raison. Mais il reconnaît quand même que si indispensable qu'il puisse être pour le vouloir et l'action des hommes, c'est-à-dire que les hommes, la plupart du temps, les politiques font référence à la justice, font référence à des valeurs absolues, il n'est pas accessible pourtant à la connaissance pure. Et donc là, il nous faut aborder, si vous voulez, la manière qu'ont les hommes, politiquement, d'ériger le droit. Et là, nous tombons sur la pensée politique de Kelsen. Donc c'est le deuxième grand temps que j'aimerais aborder ici. La politique, donc, est la démocratie. Là, je serai obligé d'être rapide pour aller jusqu'au bout de mon affaire. Je vais simplement tracer à grands traits, si vous voulez, résumer à grands traits, donc la démocratie, sa nature, sa valeur, donc ouvrage vraiment intéressant. Je vais le faire donc en deux temps rapidement, et pour nous concentrer sur le dernier chapitre de l'ouvrage, qui est philosophiquement le plus intéressant. Kelsen défend la démocratie. Il le fait dans les années 20. Il défend la démocratie, mais il le fait en, voulant la défendre d'une façon réaliste. Il pense que la plupart des gens qui défendent la démocratie comme un idéal finissent par desservir la démocratie, parce qu'ils font espérer, des réalités politiques qu'ils ne sont plus ensuite capables d'assurer. Donc il faut être réaliste dans la manière que nous avons d'évaluer ce régime politique. Par quoi commence Kelsen ? Il commence par envisager la liberté naturelle. C'est lui-même qui le dit. De ce point de vue-là, il est rousseauiste. Au départ, on part de la liberté naturelle individuelle. Mais comment la définit-il? Eh bien, il la définit d'abord négativement. Qu'est-ce que c'est que la liberté individuelle, naturelle, première ? Elle se manifeste comme une réaction contre la contrainte qui résulte de l'état de société. La protestation contre la volonté étrangère devant laquelle il faut plier. Contre le tourment de l'hétéronomie. Autrement dit, le problème, c'est que j'aimerais n'obéir qu'à moi-même, mais vivant au sein d'une société, je dois parfois composer. Et parfois, je dois me plier, aux desiderata d'autres volontés que la mienne. Toujours un peu difficile. Et donc, je ne peux pas promettre que la démocratie ne me permette, si vous voulez, de n'obéir qu'à ma propre volonté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Donc, il faut transformer la notion même de liberté, nous dit Kelsen. Pour cela, finalement, le principe sera le suivant. Il faut bien obéir, mais obéissons le moins possible à une volonté autre que la nôtre. Et c'est ainsi qu'il va justifier le principe majoritaire. Suivre la majorité, c'est finalement assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on a plus de chances mathématiquement de se trouver dans la majorité, donc d'être d'accord avec sa propre volonté. C'est tout. Et ensuite, ceci suppose une deuxième transformation. Désormais, ce n'est plus la liberté individuelle qui compte, mais disons la liberté du peuple, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, dont je suis un membre. Voilà, ça c'est le premier point. Donc on a ici une transformation de la liberté naturelle, idéal à sa réalité politique réaliste. Ouais. Ce passage est très important, mais il en faut un deuxième. Effectivement, je viens de parler de la souveraineté du peuple. Bon, mais qu'est-ce que c'est que le peuple ? Là aussi, il y a toute une mystique du peuple. Et Kelsen dit, attention, il faut parler, précisément et de façon réaliste de ce qu'est le peuple, et là, il nous faut distinguer les citoyens passifs des citoyens actifs. Où se trouvent les citoyens actifs ? Dans les partis politiques. Et on trouve sous la plume de Kelsen l'idée d'état de parti. C'est-à-dire qu'il veut d'ailleurs constitutionnaliser les partis politiques. Les partis politiques sont des incubateurs d'hommes actifs politiquement, qui vont ensuite collaborer par leur élection au Parlement, c'est le deuxième grand point institutionnel, les partis, puis le Parlement. Et à travers les partis et le Parlement, eh bien, c'est juridiquement la volonté étatique qui pourra être élaborée. Alors à ce moment-là, il y a quelques développements qui sont intéressants sur, par exemple, Kelsen s'engage pour la proportionnelle. L'intérêt de la proportionnelle à ses yeux, c'est de dire qu'il n'y a jamais, il n'y a pas de perdant. Tout le monde vote et le but, c'est de donner une représentation d'une chambre, et là on ne peut pas dire que quelqu'un a perdu, parce que par le vote de chacun, eh bien, vous êtes représenté dans le Parlement. Voilà. Et donc il y a quelque chose comme un embryon d'éthique de la discussion. Mais il ne s'agit pas de chercher la vérité, là, il s'agit simplement de trouver des compromis. Il s'agit de trouver des compromis. Donc ça, si vous voulez, il y a tout un aspect donc, institutionnel que défend Kelsen. Mais dans une note, pour l'instant ce n'est qu'une note, on trouve quelque chose de très intéressant. Là, je cite Kelsen. Il reconnaît effectivement que la démocratie ne peut pas nous assurer que les meilleurs représentent les autres. Ça, vraiment, je peux pas vous le promettre. Bon. Et alors, il met à un moment une petite note, et c'est page 101, et il dit « Si je me prononce pour la démocratie, c'est exclusivement pour les raisons exposées au dernier chapitre, et il en donne quand même un avant-goût en disant « En raison du lien qui existe entre la démocratie et une philosophie relativiste. » Donc si je suis démocrate, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas être autre chose philosophiquement que relativiste. Donc c'est une défense assez intéressante de la démocratie comme telle. Alors comme il nous le demande lui-même, reportons-nous à ce fameux chapitre 10, qui semble être une clé de voûte, non seulement de la pensée politique de Kelsen, mais également de la pensée juridique, puisque encore une fois, la pensée juridique de Kelsen est en fait une conséquence de cet engagement philosophique relativiste. Alors, vous trouvez quelques extraits, je vous en donnerai quelques-uns, donc commençons par le premier extrait, extrait 4A, je ne sais pas pourquoi j'ai noté comme ça, mais enfin bon bref, 4A, si, comme nous avons essayé de l'établir dans les pages qui précèdent, la démocratie est simplement une forme, une procédure, une méthode de création de l'ordre social, sa valeur doit apparaître extrêmement problématique, car l'adoption d'une forme ou d'une méthode politique, donc d'une procédure, ne résout en aucune façon le problème évidemment beaucoup plus important du contenu de l'ordre étatique. Donc Kelsen, tout positiviste qu'il soit, est tout à fait conscient évidemment de ces questions-là. Il s'agit pas de... Voilà, c'est même très intéressant de le voir au moins explicitement parce que certains parfois en doutent. D'autant plus important donc que tout cela conditionne encore une fois la pensée juridique de notre auteur. Alors Kelsen en vient à poser naturellement, si l'on peut dire, la question de la philosophie politique par excellence. Je cite à nouveau. Quel est l'ordre étatique le meilleur? L'ordre étatique vraiment juste? Là, pour le coup, Alain Sérieux pourrait prendre cette question, Aristote aussi. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de problème. Sur la question, pas de problème. Alors, l'argument paraît alors dans toute sa force. C'est le petit extrait 4B. De fait, la cause de la démocratie apparaîtra désespérée si l'on part de l'idée que l'homme peut accéder à des vérités et saisir des valeurs absolues. Bon, c'est clair. C'est-à-dire qu'au fond, si la vérité pouvait être accessible à l'esprit humain, il faudrait changer donc de régime, la démocratie serait insoutenable. Bien. Alors pourquoi donc ? Réponse, c'est l'extrait 4C. Car que reste-t-il en face de l'autorité supérieure à tout du bien absolu? Que reste-t-il à ceux à qui il apporte le salut, sinon à obéir sans réserve et avec reconnaissance? J'ai lu dernièrement le bouquin de Houellebecq, c'est pour ça que je mets Houellebecq en disant qu'il reste la soumission. Au fond, le problème, c'est que la valeur absolue implique nécessairement, dans l'esprit de Kelsen, la pure et simple soumission. Donc, on pourrait presque dire que l'absolu, du point de vue de Kelsen, est liberticide, littéralement. La défense donc de la démocratie se confond alors littéralement avec cette autre formulation, c'est l'extrait 4D, je me suis permis de mettre ces formules importantes. Telle est en effet la grande question, l'homme peut-il connaître des vérités et appréhender des valeurs absolues? Et bon, je dirais qu'il est réjouissant de voir pareille question posée de façon sérieuse, aussi bien philosophiquement que politiquement. Et donc, la réponse de Kelsen, finalement, se présente en deux temps. D'abord philosophiquement, et puis ensuite politiquement. Donc, je reprends la question, l'homme peut-il connaître des vérités et appréhender des valeurs absolues? Philosophiquement, Kelsen répond, ce n'est pas possible. Et politiquement, il répond, ce ne serait même pas souhaitable. Donc, philosophiquement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici un texte, le texte 5. Car la justice, donc là ici, quand il parle de justice, il faut l'entendre au sens de morale et valeur absolue. La justice, c'est-à-dire à distance du droit. La justice qu'il convient de considérer comme un ordre distinct du droit positif et supérieur à celui-ci, est dans sa valeur absolue au-delà de l'expérience. Au-delà de l'expérience, possible, si vous voulez. Tout comme l'idée platonicienne est au-delà de la réalité, ou la chose en soi transcendante au phénomène. Donc, ainsi, l'expérience donc, de l'histoire de l'esprit humain prouverait que la connaissance morale de la valeur absolue est impossible, parce qu'elle dépasserait justement l'expérience et les capacités humaines. Effectivement. Donc, on a souvent dit que Kelsen était philosophiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, un héritier de Kant. C'est pas faux, parce que là, pour le coup, il fait référence à la distinction entre la chose en soi et le phénomène. Mais il faut bien mesurer en quel sens bien singulier il en est l'héritier. Je m'explique. Chez Platon, il vient d'envisager donc la distinction entre l'idée et la réalité sensible. Chez Platon, on peut voir donc effectivement une telle distinction. Idée intelligible et expérience sensible. Certes. Mais l'enjeu de la sagesse et de la dialectique platonicienne est bien de parvenir à la contemplation des idées. Ce que Platon croit possible. Cette délicate distinction donc platonicienne n'empêche donc pas l'esprit humain d'accéder à la connaissance ultime, y compris de l'idée de justice. En revanche, chez Kant, la distinction entre la chose en soi et le phénomène, la chose donc telle qu'elle est en elle-même et telle qu'elle m'apparaît, est une limite littéralement infranchissable. Il est impossible de connaître la chose en soi. Nous n'avons accès qu'à des phénomènes, disons, calibrés par notre capacité humaine de les appréhender. Quant à savoir ce qu'il y a derrière, si je puis dire, je peux affirmer catégoriquement que je ne le saurai jamais. Parce que cela dépasse mes capacités. À tel point qu'on peut se demander comment Kant en vient à dire que la chose en soi existe, si la seule chose qu'il peut en dire est qu'il n'en connaîtra jamais rien. Aussi, si Kelsen est un héritier de Kant, c'est en tant qu'il affirme avec lui que la métaphysique est théoriquement impossible. D'ailleurs, c'est la dernière métaphysique qu'on puisse écrire. On peut métaphysiquement dire et démontrer que la métaphysique est impossible. Et que donc, si la métaphysique est impossible, l'accès aux valeurs absolues, c'est donc que tous les discours qui prétendent, qui se piquent, disons, de métaphysique, ne sont en réalité que des idéologies qui se cachent, qui sont masquées. Voilà. Donc, Kelsen ne retient de Kant que la première critique. Il n'a pas de mots assez durs vis-à-vis du Kant de la deuxième critique, parce que là, pour le coup, pour lui, ça lui apparaît complètement... ça lui paraît, d'une certaine façon, une manière de... comment dire... C'est une trahison, au fond, que Kant s'auto-inflige, si l'on peut dire, ce qui le conduit à un positivisme sceptique qui n'est pas sans rappeler Hume. Donc, en fait, finalement, on pourrait se dire l'autorité ultime dans cette affaire, c'est plutôt Hume que Kant. Voilà, ça c'est donc philosophiquement pas d'accès possible donc aux valeurs absolues. Mais politiquement, comme je vous le disais, ce n'est même pas souhaitable. En effet, et là Kelsen est très proche de Hobbes, le problème des valeurs absolues, c'est qu'on peut en faire absolument n'importe quoi. Vous pouvez, mobiliser des valeurs absolues pour légitimer l'état présent du droit et de la société et de la politique, puis vous pouvez, mobiliser d'autres valeurs absolues pour, le rejeter. Autrement dit, faire référence à une norme absolue est juridiquement, et puis aussi politiquement, une source d'instabilité. Donc il faut absolument l'éviter, si vous voulez. Mais surtout, Kelsen remarque, c'est le texte 6e. Ne me demandez pas pourquoi ça commence pas par 6a. Mais bon. Donc 6e. Il existe, nous dit Kelsen, une certaine connexion entre la conception métaphysico-absolutiste du monde et une attitude favorable à l'autocratie. Carrément donc au pouvoir d'un seul, donc une certaine forme de tyrannie. Et d'autre part, entre une attitude favorable à la démocratie, ce que défend Kelsen lui-même, et la conception critique relativiste du monde. Là-dessus, Kelsen là, ouvre une note assez longue de cet ouvrage, mais qui est vraiment intéressante. Bon, je vais prendre simplement le premier passage. Kelsen dit, en s'appuyant sur un autre auteur, mais que tous les métaphysiciens célèbres se prononcent en faveur d'une politique autocratique. Il prend exemple d'Héraclite ou de Platon, par exemple. Cependant, que les sophistes allient à leur empirisme et leur relativisme philosophique la lutte pour la démocratie. Donc là, pour le coup, c'est quand même très clair. C'est-à-dire qu'on a ici une défense, je ne dirais pas sophistique, parce que, mais une défense de la démocratie qui passe par un scepticisme assumé. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une défense désenchantée de la démocratie. Et il y tient fort, parce qu'il veut absolument éviter justement un surinvestissement idéologique dans le droit et dans la politique qu'il juge littéralement dangereux. Liberticide, si vous voulez, hein, dangereux. Et je crois que là aussi, d'ailleurs, il faut l'entendre, c'est ce qu'il y a de juste dans cette affaire. C'est même assez intéressant parce que, par exemple, pour lui, le retournement commence avec Spinoza. Quand il nous parle de Spinoza, il nous dit « Spinoza, dont le panthéisme doit être interprété comme un tournant de la métaphysique vers la connaissance empirique de la nature, puisque Dieu est la nature et vice-versa, est démocrate. » Et pour lui, ce n'est pas un hasard. Le métaphysicien Leibniz, avec son harmonie préétablie par Dieu, est logiquement pour l'autocratie. Voilà, au moins là, il y a deux camps. Et Kelsen a choisi le sien. En cela, petite parenthèse, mais j'ai été estomaqué de constater que Kelsen, comme Spinoza, considérait, même enfin, après tout ce que je vous ai dit, que le libre arbitre est une pure fiction. Personnellement, j'ai encore jamais compris comment ça marchait, mais bon, voilà. Donc je peux vous le lire quand même, pour vous dire que je ne dis pas n'importe quoi. L'imputation ne présuppose ni le fait ni la fiction de la liberté entendue comme non-détermination causale, ni la croyance erronée des hommes qu'ils seraient libres. Je ne sais pas comment ça marche. Franchement, je le laisse entre parenthèses, je ne sais pas. Mais enfin, ça revient dans tous ses bouquins, donc c'est quelque chose qu'il défend. Bien. S'agissant de Kant, dans cette note, il nous dira aussi que la philosophie transcendantale a souvent été mal comprise. La philosophie transcendantale ne peut être interprétée correctement que comme une théorie de l'expérience. Elle devrait penser logiquement jusqu'au bout, conduire, contre Kant lui-même d'ailleurs, aussi sur le terrain de la philosophie des valeurs, au rejet de tout absolu métaphysique. Donc, dit-il, à des thèses relativistes. Bon, c'est quand même assez net. Finalement, voici le fond de l'argument de Kelsen, c'est ce qui correspond au 6i de votre fascicule. Kelsen nous dit « Celui qui tient des vérités et des valeurs absolues pour fermer à l'esprit humain, c'est ce qu'il défend, doit considérer non seulement sa propre opinion, mais aussi l'opinion contraire d'autrui, à tout le moins comme possible. C'est pourquoi l'idée démocratique suppose une philosophie relativiste. » Point final. J'envisage maintenant, en guise de fin, je vais essayer d'aller rapidement, mais au moins quatre séries de critiques que je place dans la corbeille qui pourrait mettre en œuvre une discussion. Bon, j'aimerais rebondir sur la dernière proposition de Kelsen que je viens de lire. L'opinion contraire d'autrui, à tout le moins, je dois la considérer comme possible. Bon. Cette dernière affirmation, très peu relativiste elle-même quand même, hein. C'est-à-dire qu'il est relativiste, mais pas dans la manière d'envisager le relativisme. Là, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc cette affirmation, on en conviendra, mérite d'être discutée. N'y a-t-il pas en réalité une lecture étrange ici ? Si je suis convaincu a priori que toutes les opinions sont également incapables de vérité, à quoi bon me préoccuper de celles des autres ? Ah, franchement, envisager l'opinion de l'autre, comme le dit Kelsen, comme possible. Mais n'est-ce pas simplement l'envisager comme possiblement vrai, ou plus vrai que la mienne ? Ou plus pertinente ? Le fond de l'idée démocratique n'est-il pas dans l'idée que la vérité doit être honorée, y compris dans la bouche de mon adversaire ? Bon, là vraiment, je pense qu'il y a une autre manière de fonder la démocratie que de considérer que, précisément, enfin là je pense, là en vous parlant, mais je pense par exemple à ce que dit Saint Benoît dans sa règle, on doit faire parler le moine le plus jeune parce qu'on ne sait pas si finalement ce n'est pas de sa bouche que sortira la vérité. Et c'est pourquoi tout le monde doit parler. Si tout le monde a voix au chapitre, c'est que peut-être mon adversaire est plus proche de la vérité que moi. Bien. Autre critique qui me semble, alors là pour le coup, capitale. Kelsen parle de l'absolu, il ne cesse de le faire. D'une façon à la fois éminemment indéterminée, parce qu'on ne sait jamais de quoi il est question, dans son contenu, mais très prédéterminée, si je puis dire, quant à sa conception même de ce qu'est l'absolu. Il me semble que nous touchons donc là un point essentiel, en effet l'absolu est compris, je dirais même précompris, comme annihilant par son existence supposée la liberté de celui qui ne doit précisément que s'y soumettre. C'est un fait que, bien souvent, cette conception particulière de l'absolu domine les esprits. Ça, je n'en disconviens pas. L'absolu donc serait donc liberticide en lui-même. Pourtant, il existe donc un espace civilisationnel, qu'on pourrait appeler donc la pensée biblique, qui nous donne à penser justement une autre manière d'envisager l'absolu. On pourrait même dire qu'elle se singularise par là. Elle semble plaider cette tradition, si vous voulez, pour une autre compréhension effectivement de l'absolu, en tant que l'absolu confie, c'est-à-dire remet l'homme et la cité à son propre conseil. Cela pour suggérer que la connaissance de l'absolu, sa recherche, n'est pas forcément incompatible avec l'autonomie politique que promeut Kelsen, mais plutôt peut l'encourager et même la fonder. Si l'absolu est un absolu qui est capable de donner à lui-même l'homme qui est son vis-à-vis, et c'est donc que l'absolu est la source de la constitution d'une autonomie politique. Politique, tout comme d'ailleurs, individuelle. Ici, on pourrait faire référence au discours du pape Benoît XVI devant le Bundestag le jeudi 22 septembre 2011, où il bataille avec Kelsen. Et je vous donne un petit extrait, mais ça vaut le coup la totalité du discours mérite d'être lu. Contrairement, nous dit donc Benoît XVI, contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, ni un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Il a renvoyé à l'harmonie entre raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d'être toutes deux les sphères fondées dans la raison avec un R majuscule, créatrice de Dieu. Donc c'est quand même très intéressant ce type d'articulation, parce qu'il y a manière de penser l'absolu autrement que ce que présuppose sans cesse, si vous voulez, Kelsen dans son travail. Au fond, nous retrouvons ici ce qu'on pourrait appeler une véritable dialectique de l'autonomie, caractéristique d'un climat qu'on pourrait dire chrétien. Entre, d'un côté, premier extrême, la soumission à un ordre théocratique absolu, c'est ce que veut éviter justement Kelsen, qu'on pourrait à la limite donner comme « j'appartiens à l'absolu, je suis la propriété de l'absolu, donc je m'y soumets intégralement », donc qui dit absolu dit négation de ma propre liberté, ce serait le premier extrême. De l'autre côté, on pourrait penser à une liberté théomorphe, quasi divinisée, de l'homme, un peu, comme pourrait le penser Sartre, par exemple. Là, non, c'est moi qui m'appartiens, et je rejette, parce que je m'appartiens, je rejette, pour cela, toute instance absolue. Alors, soit je la rejette explicitement, soit je considère qu'on ne peut pas la penser, mais ça revient à peu près au même. Il me semble que le christianisme, et la pensée biblique tout entière, d'ailleurs, propose à un niveau personnel comme politique une voie inédite qu'on pourrait énoncer de la façon suivante. Je m'appartiens, mais il ne m'appartient pas de m'appartenir. Je m'appartiens, mais il ne m'appartient pas de m'appartenir. Autrement dit, il y a une véritable autonomie dans cette affaire. Je m'appartiens. Mais en même temps, je suis en dette, du point de vue d'une certaine finalité, parce que je ne suis pas l'auteur de cette appartenance. Moi, je pense que là, il y a quelque chose que... je dirais que le christianisme a une carte à jouer pour défendre, si l'on peut dire, la démocratie à partir de cette affaire. Mais il est clair que c'est une voie qui est délicate et parfois, enfin les chrétiens eux-mêmes d'ailleurs, ont parfois, comme dirait Pascal, idolâtré la vérité même. Bon. Et au nom de la vérité, accomplit exactement le contraire. Donc au fond... Dans cette deuxième série de critiques, je dirais que j'aurais envie de rétorquer donc à Kelsen qu'il propose une préconception singulièrement étroite de la notion de vérité même. Bon. Troisième série de critiques, et sur un autre front, j'aimerais ici mobiliser Tocqueville. Et je dirais presque que Tocqueville devrait être médité de près par Kelsen. Parce que, et là je vous ai donné, c'est le texte 7, c'est donc tiré... de la démocratie en Amérique, volume 2, partie 1, chapitre 2. À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe d'hommes diminue, nous dit Tocqueville. La disposition à en croire la masse augmente, et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde. non seulement l'opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques, mais elle a chez ces peuples une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public. Car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. Cette même égalité qui le rend indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre, isolé et sans défense, à l'action du plus grand nombre. C'est dans l'égalité même qu'il faut rechercher les sources de cette influence, nous dit Tocqueville. L'on peut prévoir, là c'est quand même assez fantastique, on a l'impression qu'il était là la semaine dernière pour commenter l'actualité, n'est-ce pas ? L'on peut prévoir que la foi dans l'opinion commune y deviendra une sorte de religion, dont la majorité sera le prophète. Alors là, c'est un point qui mérite vraiment d'être sous-pesé. Ici, Philippe Reynaud, ça me permet de parler de lui, puisque quand j'étais étudiant en droit, j'ai travaillé à ses côtés, ce qui était bon. Et il a publié pas mal d'articles, notamment dans un bouquin, oui, assez, enfin, très bien, qui s'appelle donc « Le juge et le philosophe », vraiment un recueil d'articles, très bien. Et là, il commente ce point qui me paraît effectivement essentiel, la tyrannie de la majorité. Et plus généralement, les dangers qui menacent la liberté de penser en Amérique sont ainsi intimement liés à la liberté démocratique et au déclin de la foi en Dieu ou dans des valeurs religieuses absolues. Je suis même étonné que Philippe Reynaud s'exprime ainsi de façon aussi nette, parce que la plupart du temps, c'est bon. Autrement dit, le relativisme démocratique, poursuit Philippe Reynaud, est l'éthos qui va avec lui, c'est-à-dire le pragmatisme, l'utilitarisme, l'empirisme, c'est-à-dire tout ce que Kelsen tient pour le fondement le plus sûr de la démocratie, se trouve donc représenté un danger pour la liberté. Le pire ennemi de la démocratie est la démocratie elle-même. Bon, là on retrouve les analyses de Gauchet, etc., mais enfin, je crois que c'est évidemment très important. Et donc, à suivre Tocqueville, je dirais même qu'il faudrait dire que Kelsen lui-même devient par sa doctrine le symptôme éclatant de l'idéologie démocratique. Là, je prends un autre extrait, je vous l'ai placé aussi en 8b. On pourrait dire que Tocqueville parle de Kelsen comme il voit qu'ils parviennent à résoudre sans aide toutes les petites difficultés que présente leur vie pratique, ils en concluent aisément que tout dans le monde est explicable et que rien n'y dépasse les bornes de l'intelligence. Enfin, ce n'est pas exactement ça que dit Kelsen, parce que pour le coup, lui dit qu'il y a des choses qui potentiellement dépassent nos connaissances, mais bon, on ne le saura jamais. Ainsi, ils nient volontiers ce qu'ils ne peuvent comprendre, cela leur donne peu de foi pour l'extraordinaire et un dégoût presque invincible pour le surnaturel. Et enfin, dernière série de réflexions là-dessus, je dirais qu'il faut sans doute tenir compte, par l'extension de la technique, d'extension à marche forcée de ce qui est susceptible d'être, appréhendé de façon sceptique. Autrement dit, il y a des domaines entiers de nos existences qui, par le biais de la technique qui ouvre des possibles nouveaux, nous place dans des situations où nous pouvons relativiser de nouvelles dimensions de notre réalité humaine. Voilà. Si vous voulez, on pourrait dire que des dimensions de notre existence, par exemple la filiation, la procréation, enfin ce genre de choses, enfin là je fais référence à des tas de débats actuels, finissent par s'idéologiser. Puisque la technique, nous sommes de nous déterminer. Et de le faire, si l'on peut dire, avec des arguments. Alors là, je terminerai par le témoignage d'un certain Laurent Alexandre, qui dit la chose suivante: pour moi, la percée de l'idéologie transhumaniste est la chose la plus fulgurante sur le plan politique et juridique, parce qu'en fait, c'est dans le droit que tout ceci est tranché. De toute façon, les juristes sont aux avant-postes de toutes ces questions. On va vers la fin du clivage gauche-droite, dit-il. Bon, remplacé par un clivage entre transhumanistes et bioconservateurs. Alors même que 99% des Français donc ne savent pas encore ce qu'est le transhumanisme. Les gens sont prêts à accepter n'importe quelle transgression technologique pour moins vieillir, moins souffrir et moins mourir. Je n'accepte pas cette évolution, jusqu'à quel point, n'est-ce pas ? Mais elle me semble inévitable. Bon, c'est intéressant parce que dans le discours de Benoît XVI, donc au Bundestag, il fait référence à la notion d'écologie humaine. C'est la première fois qu'il l'envisage. En se disant, ben voilà, là il y a une dimension qu'il faut peut-être envisager, une dimension naturelle, au sens quasi, enfin, qui touche presque le sens aristotélicien, comme le sens, je dirais, de l'écologiste, qui veut effectivement sanctuariser des pans entiers de nature sauvage pour pouvoir les observer comme tels. Enfin, ce n'était pas l'optique de Benoît XVI non plus, hein, mais bon. Et le livre s'arrête là. En tout cas, il pourrait s'arrêter là. Parce que, je reviens donc à Kelsen, la dernière formule qu'on a de Kelsen, c'est « Tel est le sens véritable de ce système politique que nous appelons démocratie et que l'on est en droit d'opposer à l'absolutisme politique que parce qu'il est l'expression d'un relativisme politique. » Voilà. Donc, en fait, c'est ainsi qu'il termine. Bon. Mais, et moi j'en termine, je prends quand même encore 3 minutes, mais après j'arrête, je vous ai donné quand même un extrait qui est très étonnant. Je ne le connaissais pas avant cette communication, et donc c'est en lisant le bouquin que je suis tombé dessus, et vraiment, ça m'a vraiment épaté, j'allais dire. Page 114, c'est la fin. Il termine, je viens de vous lire le passage, on pourrait dire, le bouquin pourrait s'arrêter là. Et là, il y a, une ligne est sautée, une ligne blanche, et puis, sans préparation, sans transition, Kelsen ajoute le passage suivant. Au 18e chapitre de l'évangile de Saint Jean se trouve le récit d'un événement de la vie de Jésus. Alors vraiment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien le bon? Oui, c'est le bon, d'accord. La narration simple, lapidaire dans sa naïveté, compte parmi ce que la littérature universelle a produit de plus grandiose. Et sans le vouloir, elle s'élève au rang de symbole, un tragique symbole, dit-il, du relativisme et de la démocratie. Alors là, je dis excellent, parce qu'il faut... Bon, c'est excellent. Et il poursuit. C'est au moment de la fête de Pâques. On amène Jésus, accusé de s'être donné pour le Fils de Dieu et le roi des Juifs, devant donc le gouverneur romain Pilate. Et Pilate, aux yeux romains de qui il ne peut être qu'un pauvre fou, l'interroge ironiquement. Ironiquement. Tu es donc roi ? Jésus répond avec le plus profond sérieux et tout pénétré de la flamme de sa mission divine. Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors Pilate, se représentant d'une civilisation ancienne, lasse et devenu par suite sceptique, qu'est-ce que la vérité ? Et parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la vérité, et parce que, Romain, il est accoutumé à penser démocratiquement, il en appelle au peuple et provoque un plébiscite. Il sortit de nouveau pour aller auprès des Juifs, raconte l'Évangile, et il leur dit « Je ne trouve en lui aucune cause de condamnation, mais c'est la coutume que je vous délivre quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous délivre le roi des Juifs ?» Le plébiscite tourne contre Jésus. Alors de nouveau, ils crièrent tous en disant « Pas celui-ci, mais Barabbas ». Le narrateur ajoute « Barabbas était un brigand ». Peut-être, objectera-t-on, peut-être, les croyants politiques objecteront-ils, que cet exemple parle précisément plutôt contre la démocratie qu'en sa faveur. Et il faut reconnaître la valeur de cette objection. À une condition toutefois, c'est que ces croyants soient aussi sûrs de leur vérité politique, qui doit le cas échéant être aussi réalisée par une violence sanglante que le Fils de Dieu. Point final.